Bénis encore le Seigneur pour cette soirée. Dis-lui merci, Seigneur. Vous savez, rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître que notre vie, en fait, lui appartient. Et que chaque chose que nous faisons, en réalité, c'est lui qui nous accorde la grâce de le faire. C'est pour cela qu'il est important de dire merci à Dieu en permanence pour chaque chose dans notre vie. Disons-lui merci. Disons-lui merci parce qu'il a permis que nous soyons là ce soir. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait des choses extraordinaires dans nos vies. C'est un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui refait nos forces, un Dieu qui nous soutient dans l'adversité. Ce soir, il permet que nous soyons là pour notre édification. Il a de grandes choses qu'il veut nous annoncer encore ce soir. Dis au Seigneur que tu n'es pas là pour regarder un homme, mais que c'est à lui que tu veux regarder. Par conséquent, tu veux l'écouter. C'est de lui que tu veux recevoir cet enseignement ce soir. Dis-le-lui. Priez, dis au Seigneur de réduire au silence tout ce qui peut te perturber et te distraire pendant ce moment. Demande au Seigneur de manifester sa puissance, d'augmenter ta capacité de compréhension pour que tu saisisses réellement ce qu'il a pour toi ce soir. Père, nous te célébrons pour la grâce que tu nous accordes d'être là ce soir. Te disons merci parce que tu nous aimes et tu refais particulièrement nos forces. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour répondre présent au rendez-vous avec toi. Nous ne sommes pas là, Seigneur notre Dieu, pour un homme. Mais nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour communier avec toi autour de ta parole. C'est pourquoi nous voulons te consacrer ce moment et te dire, Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Règne, Seigneur, pendant ce moment. Manifeste ta présence pendant ce moment. Glorifie ton nom, Seigneur, pendant cet instant. Et permets que ta gloire, Père éternel, triomphe de toutes choses. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu règnes. Et toi-même, Seigneur, tu parles à mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous continuons aujourd'hui avec la deuxième partie de notre programme après le break d'hier sur des questions-réponses et la révision de tout ce qui avait déjà été fait jusqu'alors. Et ce soir, le thème que nous abordons, c'est de nouvelles conquêtes. De nouvelles conquêtes. De nouvelle conquête. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans deux passages que nous allons lire pour introduire ce moment. Le premier, c'est Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, le verset 10. Quelqu'un a trouvé ce texte? Oui. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est la mission de Christ qui est clairement définie dans ce passage, n'est-ce pas? Et le texte dit clairement, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En d'autres termes, si nous disons que nous appartenons à Christ et que nous ne sommes pas en train de faire la même mission que Christ, nous ne sommes pas dans la vision de Dieu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour ces perdus que Christ a quitté son trône céleste. Il a quitté sa gloire dans les cieux pour venir sur la terre. C'est pour ceux dont la vie n'avait plus de sens, pour ceux qui étaient égarés, pour ceux qui avaient perdu l'espoir. C'est pour ces personnes que Christ est venu. C'est pour redonner un sens à la vie de l'humanité et de chaque homme que Christ est venu sur la terre. Il est venu chercher. Ça suppose que ces personnes n'étaient même pas facilement accessibles, n'est-ce pas? Il est venu, les a cherchés. Dieu qui vient chercher l'homme dans son péché, dans son égarement, pour lui apporter le salut. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Habituellement, on fait l'effort pour aller vers Dieu, n'est-ce pas? Selon ce que nos traditions et certaines religions prônent, il faut faire des efforts pour aller vers Dieu. Mais le texte nous dit clairement que Jésus est venu pour chercher. Donc Jésus est en train de chercher les personnes qui sont perdues. Tant qu'il y a des personnes qui sont perdues, des personnes qui sont sans Christ, Christ va continuer de les chercher jusqu'à ce que ces personnes obtiennent le salut. Et comment est-ce que Christ continue de les chercher aujourd'hui? C'est au travers de toi et moi. Parce qu'il veut le salut de ces personnes. Il veut que ces personnes-là entrent dans la grâce que lui, il apporte dans le monde. Entre dans le salut que lui, il offre à l'humanité tout entière. Il veut sauver. En d'autres termes, il veut arracher l'homme des griffes du malin. Il veut arracher l'homme de l'esclavage du péché. Il veut arracher l'homme de tout ce qui l'oppressait, de tout ce qui l'opprimait. Il vient pour nous sortir de toutes ces choses-là. Et si nous disons que tel il est, tel nous sommes, ça veut dire que nous aussi, nous avons la même mission que Christ. Il n'en avait pas deux. C'est cette mission qui l'a amené à la croix. Sauver ceux qui étaient perdus. S'il allait jusqu'à la croix, c'était pour donner la vie à ceux qui étaient perdus. Le deuxième texte que nous connaissons, c'est Romains 8, verset 19, qui dit: la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de. La création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de. Ça veut dire que le monde entier et tout ce que le monde renferme attend ta révélation. Attend que tu révèles Christ. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu, le monde entier veut voir Dieu au travers de ta vie. Les gens veulent venir au Seigneur. Les gens veulent être connectés au Seigneur au travers de ta personne. Et tout l'univers doit attendre que ceux qui sont les enfants de Dieu puissent révéler Christ à l'humanité. Puissent révéler Christ au monde entier. Ainsi qu'autour à tout le reste de la création. C'est donc notre responsabilité de le faire. C'est pourquoi nous sommes dans une logique de la conquête. La passion de Jésus était de chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Et je disais tout à l'heure qu'il a quitté le ciel et il est venu sur la terre pour cette mission-là. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous soit touché et investi de la puissance de Dieu. Jésus était centré sur cette mission. Et cela reste encore aujourd'hui la mission de l'Église. Une Église qui n'a pas pour mission de sauver les perdus n'est pas une Église de Christ. On se comprend? Une Église qui n'a pas pour mission de chercher les perdus et de les sauver n'est pas l'Église de Christ. C'est l'Église de quelqu'un d'autre. Christ ne peut pas être la tête de cette Église-là. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'entends les gens dire que l'évangélisation porte à porte telle que nous le faisons, ce n'est pas le propre de l'église évangélique, qu'on a copié ça chez les témoins de Jéhovah et tout ça, moi je ris. Parce que c'est biblique. N'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus faisait. Nous allons le voir davantage tout à l'heure. Toute église a pour responsabilité de chercher et de sauver ceux qui sont perdus. Combien de personnes est-ce qu'il y a autour de toi qui sont sans Christ? Combien de personnes est-ce qu'il y a autour de toi? Peut-être tes camarades de classe, peut-être tes collègues, les membres même de ta famille qui sont sans Christ et qui sont perdus. Est-ce que le fait que ces personnes soient sans Christ t'inquiète même? Est-ce que ça te préoccupe même? Est-ce que ça te gratte même pour parler terre à terre? Est-ce que tu es même préoccupé par le salut de ces personnes? Est-ce que ça te gêne que ces personnes-là soient sans Christ et mènent leur vie comme ils sont en train de la mener maintenant? Si tu restes indifférent par rapport à toutes ces choses-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème très très sérieux. Parler des cœurs à conquérir pour le royaume de Dieu, c'est parler des personnes passionnées pour la moisson des perdus. Vous savez, la véritable intimité avec Dieu conduit à son cœur et à la passion pour les âmes perdues. On ne peut pas dire qu'on est intime de Dieu quand on est indifférent face à ceux qui se perdent, face à ceux qui gardent. On ne peut pas. Si nous sommes des intimes de Dieu, il va de soi que nous aurons un cœur qui brûle pour les personnes qui sont perdues. Avec cette intimité, le cœur de Dieu devient notre cœur. Sa passion devient notre passion. Alors que notre passion doit être constamment ravivée, notre vision doit également être renouvelée. Les deux sont étroitement liés. Notre passion est à l'origine de notre amour pour Christ. Notre passion pour les perdus est liée à notre amour pour Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Christ sans manifester de l'amour à l'endroit de ceux-là qui sont perdus. N'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur Jésus quand on n'aime pas celui-là qui est perdu. Il y a certaines personnes, grands hommes de Dieu, qui ont marqué l'histoire. Et depuis que j'ai découvert leur histoire, ils m'encouragent chaque jour dans ma mission. Je vais prendre l'exemple de quatre d'entre eux. Vous connaissez certainement John Wesley, n'est-ce pas? Qui était un pasteur, oui, de l'église méthodiste en Angleterre. Il a vécu au 18e siècle. Et l'histoire raconte que quand John Wesley avait 5 ans, la maison de son père, qui était aussi pasteur, Samuel Wesley, avait pris feu de nuit pendant qu'ils étaient en train de dormir. Et tout le monde dormait profondément et les voisins ont vu le feu, ont commencé à alerter au feu, au feu. Ses parents n'ont su sauter qu'au moment où une partie du plafond est tombée sur le lit. Ils ont su sauter. Sa maman était malade. Il y avait des difficultés à se déplacer. La chambre des enfants était à l'estrade, parmi lesquels John Wesley, qui avait 5 ans et qui dormait. La dame de ménage, mais la gouvernante de la maison, a pris le petit frère de John Wesley et a pu descendre. En descendant, elle a réveillé John Wesley. Mais avec les flammes qui devenaient de plus en plus intenses, elle a fui. Et John Wesley était toujours en train de dormir pendant que toute la maison était en train de brûler. Son père a tenté plusieurs fois lui-même de traverser les flammes de feu pour aller sortir son fils, mais sans pouvoir le faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a rassemblé toute sa famille dans la cour, au jardin à l'extérieur. Ils se sont mis à genoux. Ils ont commencé à prier pour dire, Seigneur, sauve mon fils des flammes de feu. Et John Wesley s'est réveillé de son sommeil et par une petite ouverture qu'il y avait, a ouvert la fenêtre et les voisins qui étaient juste à côté ont pu le sortir de cette flamme-là. Et toute la famille de Samuel Wesley a été sauvée. Et lorsqu'on est descendu avec John, Et quand on l'a remis à son père, John Wesley a demandé encore avec ses voisins que venez, on se met à genoux, on rend grâce à Dieu parce qu'il m'a remis mes 8 enfants. Parce que ces 8 enfants avaient été sauvés de cette flamme. John Wesley est l'une des personnes qui a porté le réveil dans l'église méthodiste à l'époque en Angleterre. Il fut un grand instrument que Dieu a utilisé pour la transformation des vies. Et il a pu affirmer une chose qui est capitale et qui est restée dans l'histoire de John Wesley. N'ayons qu'une seule affaire, notre vision uniquement, le salut de nos âmes et celle des âmes des perdus. N'ayons qu'une seule affaire en commun, le salut de nos âmes et le salut des âmes de ceux qui sont perdus. C'était la raison pour laquelle est-ce que John Wesley vivait. Pour le salut des âmes. Pour le salut de ceux qui étaient perdus. Parce qu'il avait ce feu qui brûlait en lui. Conquérir de nouvelles personnes qui sont sans Christ et les ramener à la bergerie. Les ramener à la bergerie. Donner un sens à leur vie. Un autre personnage qui a également marqué son époque, c'est John Locke, qui était un Écossais. Il avait l'habitude de prier tout le temps. Et à un moment donné, sa femme lui avait demandé de prendre du repas, du repos. Et ce dernier a répondu à sa femme qu'il ne pouvait pas se reposer tant que son pays, l'Écosse, n'était pas sauvé. Il prenait des heures et des heures dans la prière. Il priait pour dire, Seigneur, sauve l'Écosse. Et sa femme est venue lui dire ça. Il a dit que non, je ne peux pas fermer les yeux tant que l'Écosse n'est pas sauvée. Combien de personnes prient pour le Cameroun comme ça? Est-ce que véritablement nous avons ce fardeau de voir la transformation dans notre pays pour que ceux-là qui s'égarent, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la rose-croix, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans le yoga et toutes les autres religions mystiques, occidentales ou bien orientales, puissent sortir et venir à Christ? Lui, c'était son fardeau. Et l'histoire nous dit que il a continué à prier toute la nuit. Il a demandé à Dieu de lui donner l'Écosse ou alors qu'il prenne son âme. Soit tu me donnes toute l'Écosse ou alors tu prends mon âme. Tu prends ma vie. Et quelques années plus tard, dans le 19e siècle, l'Écosse tout entière va être bouleversée par l'Évangile à cause de la prière d'un homme qui avait le fardeau de voir sa nation tout entière être transformée et gagnée à Christ. Il avait ce fardeau. C'était aussi l'un des collaborateurs de Jean Hus, et particulièrement l'un des réformateurs dans l'église presbytérienne. C'est lui qui a apporté beaucoup de réformes, notamment dans la liturgie de l'église presbytérienne. Il a apporté beaucoup de réformes dans cette église. Recentrer les choses sur la mission de l'église, qui est le salut des âmes. Le troisième, c'est William Booth, qui est le fondateur de l'armée du salut. Et l'histoire raconte que le roi d'Angleterre l'avait invité à dîner. Et le roi demanda quelle était la passion de sa vie. Et William a répondu au roi d'Angleterre que la passion de certains hommes est l'or, d'autres la renommée, mais sa passion est pour les âmes. Pendant que les hommes sont passionnés de l'or, ils sont prêts à des sacrifices pour obtenir de l'or. Certains sont passionnés pour la renommée, pour avoir un nom sur cette terre. Lui dit que sa passion, ce sont les âmes. Mais devant le roi d'Angleterre, on s'attendra à ce qu'il dise autre chose, n'est-ce pas? Imaginez, vous êtes à table avec un grand roi. Quand il vous demande c'est quoi votre passion, en réalité, vous attendez à ce qu'il dise que bon, ok, je vais t'aider à réaliser ta passion. Mais lui dit que sa passion, ce n'est ni l'or, ce n'est ni la renommée. Mais c'est quoi? Ce sont les âmes. Ceux qui sont perdus. C'est ça sa passion. C'est ça ce qui l'intéresse. C'est ça ce pourquoi est-ce qu'il vit. C'est pour les âmes que son cœur bat. Et il a aussi écrit à la fin du 19e siècle Une chose qui est très très importante, que je voudrais bien que nous retenions. Le plus grand danger du 20e siècle sera une religion sans Saint-Esprit. Des chrétiens sans Christ. Le pardon sans repentance. Le salut sans nouvelle naissance. La politique sans Dieu et un ciel sans l'enfer. Ce sera le plus danger, le plus grand danger. Ça veut dire que si une église doit vivre et fonctionner sans le Saint-Esprit, c'est une église qui est dangereuse. Si on doit parler du salut aux gens sans leur parler de la nouvelle naissance, on n'est pas en train de faire le travail qu'il faut. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans l'église. On ne sait pas souvent comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans l'église, mais ils n'ont jamais entendu parler de nouvelle naissance. Quand vous leur posez la question sur la nouvelle naissance, ils sont stupides. Ils se demandent que ça signifie quoi encore la nouvelle naissance. Oui. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont bondées de personnes comme ça, qui ne savent même pas ces rudiments de la marche avec le Seigneur. C'est le plus grand danger que nous courons aujourd'hui, de faire des religieux et non pas de véritables chrétiens. De faire de véritables religieux et pas des personnes véritablement engagées pour le Seigneur. Des personnes qui craignent véritablement le Seigneur. Nous savons aussi que ce William Booth était le fondateur de l'armée du salut. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Vous savez quelle était sa devise quand il allait pour les conquêtes? Sa devise était en avant pour les âmes, en avant pour les pires. En avant pour les âmes, en avant pour les pires pécheurs. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à chercher même les personnes que leur cas est déjà désespéré aux yeux des hommes. C'est ceux-là qu'on va aller chercher. Pourquoi? Parce qu'il avait le souci de conquérir de nouvelles personnes. Est-ce que tu as cette soif? Est-ce que tu as cette soif de gagner les personnes qui sont sans Christ? L'autre cas que nous allons relever, c'est le cas d'un évangéliste qui est décédé récemment et que beaucoup de personnes également connaissent, Rena Bonke. Lui, il est né de nouveau à l'âge de 9 ans. Il est né de nouveau à l'âge de 9 ans. Et il a reçu de Dieu le mandat de la mission d'évangélisation, particulièrement en Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique, c'était sa cible. C'est pour cela qu'il a organisé de nombreuses croisades en Afrique pour gagner les personnes. Et dans ces croisades, il y avait toujours une foule nombreuse de personnes qui venaient. Et l'histoire nous dit que ces 30 dernières années, il a touché plus de 70 millions de personnes par l'évangile. Et depuis l'année 2000, 36 millions de personnes se sont donnés à Christ en remplissant le coupon d'engagement à la suite de ces croisades d'évangélisation. Ça, c'est le travail d'une personne. Entre 2000 et 2000, il est mort en 2019, l'année passée. N'est-ce pas? En 19 ans, il a touché 36 000 personnes. Il a conduit 36 000 personnes à Christ par ces croisades d'évangélisation. Quand je prends ces exemples, c'est pourquoi nous voyons que si ces hommes ont pu réaliser ces choses, ça veut dire que nous aussi pouvons le réaliser. Nous avons la disposition de cœur nécessaire. Et nous avons ce battement de cœur pour les personnes qui sont sans Christ. Dieu veut ce soir susciter des personnes qui s'engagent véritablement dans cette conquête. Je voudrais particulièrement bénir le Seigneur pour la vision de la région de cette année, au travers des différentes croisades qui sont organisées. Nul n'avait été la situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. C'est que dans les jours qui viennent, nous aurons notre deuxième croisade. N'est-ce pas? Sur les 20 qui sont organisés. C'est ça la vision de Dieu. Gagner ceux qui sont perdus. Gagner ceux-là qui sont sans Christ. Et ma prière véritablement, c'est que cette histoire cesse vite et qu'on se remette à nouveau au travail. Je peux vous garantir d'une chose. Les gens ont vraiment besoin de Jésus. Les gens ont vraiment besoin de Jésus. Même si c'est quelques personnes dont l'impression que l'histoire de Jésus là ne leur dit rien. Au fond, les hommes, ce dont ils ont le plus besoin, c'est de Jésus. J'ai été responsable de l'évangélisation dans la Meunoie pendant environ 2 ans. Et chaque année, on devait organiser les camps de vacances, des camps d'évangélisation dans le district qui devait accueillir le synode régional. On choisissait une paroisse, on campait dans cette paroisse-là, on était nombreux et on saturait le coin de l'évangile. Et c'est pendant qu'on était là, qu'on priait pour la restauration des vies des personnes, qu'on voyait des choses terribles. Des marabouts abandonner leurs histoires de fétiches avec lesquelles est-ce qu'ils pratiquent leur sorcellerie pour se donner à Christ. Des sorciers qui siégeaient dans des paroisses, quittaient ces paroisses. Les gens ont besoin de Jésus. Les gens sont tellement captifs que si on ne leur prêche pas l'évangile, il est difficile pour eux de sortir des griffes de Satan. Les gens souffrent. Et il faut bien qu'il y ait des gens pour porter le message de l'évangile. Est-ce que tu veux être cette personne que le Seigneur va utiliser pour apporter la transformation, pour sauver ces personnes qui sont perdues? L'autre élément que nous allons aborder ce soir, c'est la conquête de nouveaux territoires. Quelqu'un peut nous lire Luc 8, verset 1? Luc 8, le verset 1. Très bien. Nous sommes dans la conquête des territoires. On dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, faisant quoi? Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus n'était pas statique dans sa mission. Il n'était pas assis quelque part et il attendait que les gens viennent le trouver. Mais Jésus allait de village en village, de ville en ville, pour annoncer l'évangile et gagner les personnes. Connecter ces personnes avec le royaume de Dieu. De ville en ville. Une église qui ne pense pas à s'étendre est une église qui est appelée à mourir. On se comprend? Une église qui ne travaille pas à grandir, à s'étendre, c'est une église qui est appelée à mourir. Jésus rendait un ministère itinérant. Il allait de lieu en lieu et il portait la bonne nouvelle. Il ne restait pas sur place. Beaucoup de personnes aujourd'hui font du sur place. Ils restent, ils attendent. Au milieu de nous, les pasteurs encore, c'est grave. Quand ils entendent « aller faire de toutes les nations », eux, ils entendent plutôt « rester ». N'est-ce pas? Hein? Que les fidèles viennent vous trouver. La mission, c'est d'aller, pas de rester. Et Jésus a montré cet exemple. Il allait de ville en ville, de village en village, pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous sommes appelés aussi à aller de ville en ville, de lieu en lieu, pour l'annonce de l'évangile, pour le salut des personnes qui sont sans Christ. C'est notre responsabilité. Dans Actes 1, le verset 8, il nous est dit aussi, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de... » Voilà encore la progression dans la mission. Jérusalem, ensuite, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Dont le désir de Dieu, c'est que les extrémités de la terre soient atteints par l'évangile. Quelle est ta contribution pour que les extrémités de la terre soient atteintes par l'évangile? Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as fait jusqu'alors pour que l'évangile atteigne l'extrémité de la terre? Vous savez, j'ai observé une chose que j'ai déjà relevée ici peut-être une fois. Quand on organise des sorties d'évangélisation, les dimanches après les cultes, c'est souvent avec beaucoup de lourdeur que certaines personnes y vont, n'est-ce pas? Certains vont même en murmurant. Vraiment, au lieu d'aller à l'évangélisation en murmurant, mieux vous rentrez chez vous. Vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est une mission et c'est notre responsabilité. On devrait être content de se lever pour aller chercher ces personnes-là qui sont sans Christ. On a même la grâce que dans la communauté, on pense à organiser ces choses. Dans notre communauté, il n'y a pas ça. Quand Dieu choisit de vous associer à son œuvre, c'est par amour pour vous. Vous êtes en train de faire ce que vous devez faire. Mon désir, c'est que dorénavant, pendant que vous devez aller porter le message de l'évangile, que ce soit avec plus de zèle, que ce soit avec plus d'engouement, que ce soit avec plus de détermination, pour ces personnes que vous allez, à qui vous allez présenter l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas vous qui allez transformer le cœur de ces personnes. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de présenter l'évangile à ses pères. C'est tout. Parlez-leur de l'amour de Christ. C'est tout ce que Dieu attend que vous fassiez. Le reste, la transformation qui doit s'opérer dans leur cœur, c'est Christ lui-même qui gère ça. On se comprend? C'est lui qui gère ces détails-là. Dites simplement le message d'amour de Dieu et l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour le salut de ces personnes. Dieu s'occupe du reste. Dieu veut juste que ces personnes soient en contact avec l'évangile. Et mon désir, vraiment, c'est que chacun d'entre nous devienne un véritable évangélisateur. C'est notre responsabilité. Nous connaissons tous ce qu'a été le ministère de Paul. Il était missionnaire itinérant. Et il a créé plusieurs communautés. Dans la parole de Dieu, on peut identifier par exemple 7. Mais ce ne sont pas seulement les 7 endroits où il est allé. On a par exemple Rome, Corinthe, Galates, Éphèse, Philippe, Colosse, Thessalonique, qui sont des communautés qu'il a implantées pendant qu'il rendait ministère. Dès qu'il a compris quel était le véritable sens de sa vie, quel était le véritable but de sa vie, il s'est mis au travail et il allait de lieu en lieu, créant des communautés là où il allait. À son actif, en quelques années, il a fait 7 communautés. Et il a touché un grand nombre de personnes avec l'évangile. Et une chose importante, c'est que la stratégie de Paul n'était pas la même partout. Je voudrais qu'on ouvre acte 17 pour voir comment est-ce qu'il a procédé à Athènes. Acte 17, les versets 22 à 24. Acte 17, les versets 22 à 24. Oui. Amen. Paul arrive à Athènes et pendant qu'il est en train de faire l'investigation du terrain, hein, le tour de reconnaissance des lieux, il découvre que les gens d'Athènes adorent plusieurs divinités. Et parmi les statuettes, il y a la statuette d'une divinité sur laquelle est-ce qu'il est marqué Dieu est Dieu inconnu. Donc le Dieu que nous on ne connaît pas. On a répertorié ceux qu'on connaît. Moi, on a l'impression qu'il y a un là qu'on ne connaît pas. Faisons quand même une statuette pour. On fait une statuette, on dit que, ok, le Dieu qui est inconnu. Là, on est sûr qu'on a identifié tous les dieux. On a même représenté celui qu'on ne connaît pas. Quand l'apôtre Paul voit cette statuette-là, cette idole, c'est pour lui la brèche pour passer le message de l'évangile. Il dit, je suis venu vous parler de ce Dieu inconnu-là. On se comprend? C'est comme ça qu'il entre avec l'évangile à Athènes. Et c'est comme ça qu'il gagne ces personnes qui étaient sans Christ en leur présentant la parole de Dieu. Ce matin encore, nous pouvions voir la stratégie de Jésus. Il commence par des choses banales. L'eau. Donne-moi l'eau. Je ne te donne pas l'eau parce que tu es mon ennemi. Si tu savais à qui est-ce que tu as affaire, tu me demanderais plutôt de te donner l'eau. Ouais, tu n'as même pas le seau pour puiser l'eau. L'eau est même profonde dans le puits. Tu vas me donner l'eau comment? C'est comme ça que la conversation s'est passée. Et puis la conversation a abouti au salut de toute une nation. À chaque contexte, à chaque peuple, à chaque personne, à qui est-ce qu'il faut porter le message de l'évangile, Dieu nous communique la stratégie qui convient. Dieu nous donne la méthode qu'il faut. C'est pour ça que les méthodes n'étaient pas identiques. Pour tous les cas, à chaque situation, Dieu a donné la stratégie qui convenait pour que le message puisse pénétrer la vie de cette personne. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Philippe, voyons cette stratégie pour terminer dans Acte 16. Acte 16, les versets 11 à 15. Quelqu'un peut nous lire ce texte? À 15. Amen. Voilà Paul qui arrive à Philippe. C'est un autre cas de figure. Leur réflexe, c'était quand ils étaient dans une ville, de chercher un lieu de prière. Il y en a que dès qu'ils sortent de Bafoussam, qui voyagent pas là à Yaoundé, ils ne vont plus à l'église. C'est vrai, non? J'ai reçu beaucoup de jeunes gens qui, pendant les vacances là, quand ils reviennent, au moment de la préparation de leur cadre, tu vois 3 mois sans préparation, tu leur demandes tu étais où. Ils disent que je ne partais pas à l'église parce que je ne connaissais pas là où il y a l'église. Le réflexe de quelqu'un qui est chrétien, c'est de repérer là où il se trouve un endroit où les enfants de Dieu se réunissent. C'est un réflexe. Dès que tu arrives à un endroit, tu répertories d'abord là où tes frères dans la foi se trouvent. Ce devrait être un réflexe. Et ses compagnons avaient ce réflexe-là. Et ils cherchaient dans un lieu de prière. Et pendant qu'ils cherchaient un lieu de prière, ils sont retrouvés en face d'une femme qu'on appelle Lydie, qui était là, au bord de la rivière. Ils n'ont pas dit que non, c'est une femme. Elle ne va même pas comprendre l'évangile. Elle n'avait pas de préjugés aux gens ou par rapport aux personnes qu'ils avaient en face d'eux. Immédiatement, ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle à cette femme-là. Lydie a été gagnée par Christ. Elle a reçu le baptême, elle et toute sa famille. Et l'histoire de Lydie a totalement changé. Et le peuple aussi avec. Parce que désormais, c'est elle qui va héberger ses missionnaires pendant leur séjour à Philippe. Bien-aimé, le monde a besoin de l'évangile. Le monde a besoin des personnes qui vont lui porter l'évangile. Nous sommes dans un temps où on a besoin de conquérir le cœur des gens, de gagner les personnes à Christ. Et ils sont nombreux dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos quartiers. Vous savez, le danger, c'est très souvent de juger ces personnes. Je dis que telle personne là, il est trop dur, il ne peut même pas entendre l'évangile. Et vous avez dit ça, mais vous avez fermé votre cœur à ce que Dieu peut faire au travers de vous dans la vie de cette personne. Il n'y a pas de personne qui soit intouchable par l'évangile. L'erreur que nous commettons, c'est de croire que c'est nous qui allons toucher ces personnes. Ce n'est pas nous qui les touchons. On se comprend? C'est Christ qui touche les cœurs et qui les change, qui opère la transformation qu'il faut dans les cœurs. Je voudrais qu'avant que nous ne commencions à prier maintenant, que tu écris sur un papier le nom des gens de ta famille qui sont sans Christ. Écris, ainsi que de tes voisins. Parce que la première étape dans la conquête de ces personnes, c'est d'abord de les porter dans la prière. On se comprend? C'est d'abord de les porter dans la prière. Pour que le Seigneur prépare leur cœur et que toutes les forteresses qui les tenaient captifs lâchent prise et qu'ils soient réceptifs au message que vous avez à leur donner. Marquez quelque part le nom de ces personnes. On va prier tout à l'heure pour ces personnes. Vous allez continuer de prier pour eux et créer des occasions pour leur annoncer l'évangile, l'amour de Dieu. Dans vos familles, vos frères, vos sœurs, vos tantes qui sont sans Christ, vos voisins qui ont besoin de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé, pour prier le Seigneur?
J'irai, quel que soit le temps que cela mettra. Annoncer l'évangile au bout du monde, j'irai. Relever tous ceux qui sont tombés, j'irai. Redonner la vie aux amourants, j'irai, quel que soit le temps que cela mettra, j'irai annoncer l'évangile au bout du monde.
Je voudrais que pendant qu'on est en train de chanter, que ce chant soit pour toi comme un engagement que tu prends devant le Seigneur maintenant.
aux endroits, j'irai. Rien ne m'arrêtera sur le chemin. La distance encore moins, la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes, et je combattrai au nom de l'Éternel.
Bien-aimé, je voudrais que tu rendes grâce à Dieu qui porte son soin sur ta personne. Pour continuer l'œuvre qu'il a commencée. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux être le prolongement de ta main. Je veux continuer la mission, Seigneur, que tu m'as confiée. Celui d'aller vers les vertus. Celui d'aller vers ceux qui souffrent. Celui d'aller vers ceux qui sont sans Christ. Dieu Seigneur, que tu veux aller. Que tu te disposes à être cet instrument qu'il va utiliser pour le salut des âmes. Renouvelle ton engagement à remplir convenablement ta mission.
Relever tous ceux qui sont tombés.
Pendant que tu t'engages, le Seigneur te donne la force et l'équipement nécessaire. Il te remplit de sa puissance, il te remplit de sa force, il te remplit de sa sagesse pour accomplir pleinement cette mission. Dieu Seigneur de remplir ton cœur de la soif pour ces personnes qui sont sans Christ. Dis-lui Seigneur, je veux que mon cœur batte au rythme de ton cœur. Pour ceux-là qui sont sans Christ, pour ceux-là qui sont perdus. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton temps, à sacrifier ton énergie, à sacrifier ton argent pour le salut de ces personnes? Dieu Seigneur, que comme lui, tu veux te sacrifier pour le salut de ces personnes. Tous les jours, nous entendons des personnes qui meurent. Un bon nombre de ces personnes meurent sans Christ. Et Dieu va nous redemander les âmes de ces personnes qui sont parties sans connaître Christ. Qu'est-ce que nous avons fait pour leur salut? Dans nos familles, que nous avons fait pour que ces personnes puissent connaître Christ? Dieu nous redemandera. Parce qu'il a dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es la lumière qui doit briller au sein de ta famille pour que ces personnes sans Christ puissent faire sa rencontre. S'ils ne sont pas encore venus à Christ, peut-être c'est parce que ta lumière ne brille pas encore assez. Implore la grâce de Dieu. Dis-lui Seigneur, attise la flamme de ton amour. Le zèle pour l'évangile dans mon cœur. Bien-aimé, commence à prier pour ces personnes au sein de ta famille. Présente-les au Seigneur. Cite leur nom. Demande la conversion de toutes ces personnes qui étaient des religieux, qui venaient à l'église, mais qui continuaient de faire des pratiques traditionnelles, qui était encore dans des choses bizarres. Demande au Seigneur de les arracher de ces choses, de les arracher de la captivité de Satan, de l'aveuglement de Satan, de les arracher de l'esclavage, du péché dans lequel est-ce qu'ils sont. Bien-aimé, réclame leur âme au Seigneur. Dis Seigneur, s'il te plaît, sauve ces personnes. Sauve-les Seigneur.
qui ne meurt point sans t'avoir connu, sans t'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, agis dans leur vie. Bien-aimé, je voudrais que tu pries pour cette nation, le Cameroun, qui doit être transformé par l'Évangile, jusque dans les fins fonds des villages. Je prie le Seigneur pour ça. Il y a des villages dans ce pays où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Prie que le Seigneur suscite davantage des missionnaires. Et si pendant que tu es en train de prier, le Seigneur t'appelle à ce ministère, ne résiste pas. Réponds à l'invitation du Seigneur. Réponds à l'appel du Seigneur et engage-toi comme missionnaire. Proclame que le Cameroun est gagné à Christ. Du sommet jusqu'à la base. Que l'Évangile touche les cœurs de nos dirigeants, de ceux qui dirigent cette nation. Parce que seul l'Évangile est capable de transformer une nation. Les nations qui sont bâties dans la crainte de Dieu sont des nations qui prospèrent. Que les fausses religions tombent. Que l'occultisme perde son pouvoir sur une autre nation. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, toutes ces sectes qui perdent leur pouvoir dans notre nation. Proclamons que le règne de ces sectes cesse au nom de Jésus. Dieu est capable de le faire. Si nous le demandons avec foi, le Seigneur peut agir. Le Seigneur peut restaurer ces choses et il le fera. Que les fondements du mal sur lesquels cette nation pouvait être bâtie maintenant soient dessouchés. Que l'amour de Dieu touche les cœurs. Que l'amour de Dieu touche les cœurs. Qu'en cette année 2020, il y a encore plus de conversions. Des Camerounais. Proclamons que nous voulons une nation qui craint l'Éternel. Une nation qui est totalement tournée vers Christ et qui vit pour servir le Seigneur. Dieu Seigneur de te remplir de sa puissance, la puissance qui donne la sagesse, parce que c'est l'esprit de sagesse devant chaque situation que l'esprit de Dieu t'inspire sur la stratégie pour aborder et passer le message de l'Évangile. Dis Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses de ta sagesse, je veux que tu me remplisses de ta force, je veux que tu me remplisses de ton courage. N'aie pas peur. Parce que c'est le Seigneur qui t'accompagne dans cette mission. Tu n'es pas seul. Jésus a dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est présent. Il ne vous abandonne pas dans le champ de mission. Ô Père, merci pour la mission que tu nous confies. C'est pour nous un privilège d'être associés, Seigneur, à ton œuvre. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu portes ton regard sur nous? Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu t'intéresses à nous? Pour que tu veuilles nous utiliser? Ô Seigneur, quand nous pensons qu'à des moments, nous refusons même d'annoncer l'Évangile, ô Seigneur, nous implorons ta grâce. Quand nous pensons que souvent, nous sommes indifférents face à la souffrance de ceux qui sont autour de nous. Des gens qui meurent sans Christ. Des gens qui sont tenus captifs sans Christ. Nous sommes indifférents, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de voir les choses différemment. D'aimer, Seigneur, ces perdus comme toi, tu les aimes. Donne-nous, Seigneur, un cœur qui aime ces personnes qui ont besoin du salut. Donne de ne plus les juger, Seigneur. Donne de ne plus les condamner, Seigneur. Mais de leur parler de ton amour. De leur parler de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Qui seul est capable de restaurer leur vie. Qui seul est capable de donner un sens à leur vie. Donne de les aimer comme toi tu les aimes. Remplis-nous, Seigneur, d'amour pour eux. Et quand nous, Seigneur, brûle la flamme de ton évangile. Fais de nous des conquérants. Des conquérants, Père éternel, de ta promesse. Fais de nous, Seigneur, des conquérants des âmes perdues. Fais de nous des conquérants, Père éternel, de ceux-là qui sont sous la captivité de Satan. Oui, Seigneur notre Dieu. Donne-nous sortir, Seigneur, de nos zones de confort. Donne-nous, Seigneur, de sortir de notre suffisance pour aller vers ceux-là, Seigneur, qui ont besoin de toi. Oh Seigneur, fais-nous cette grâce. Nous voici, Seigneur, ce soir. Nous répondons, Seigneur, à ton invitation, à ton appel. Nous acceptons, Seigneur, d'aller en mission. D'aller, Seigneur, notre Dieu, dans le champ de mission. Seigneur, utilise-nous comme tu veux. Seigneur, nous disposons comme des instruments entre tes mains. Père, utilise-nous. Père, utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur, gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ.